Bonjour à tous, il est 17h ici à Paris, 18h à Kazan. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellicha.
À la une de l'actualité, l'ouverture du sommet des BRICS en Russie et la volonté de Vladimir Poutine de faire contrepoids aux Occidentaux, de montrer ses alliances, de battre en brèche l'image d'un président isolé. On y parlera Ukraine avec les dirigeants des pays émergents, Proche-Orient et système financier alternatif. L'offensive israélienne se poursuit au Liban. Anthony Blinken est arrivé dans la région aujourd'hui. Première étape Israël avant la Jordanie avec un objectif, arracher un cessez-le-feu. Mais son 11e voyage dans la région en un an peut-il se solder cette fois-ci par un succès ? Et puis la culture qui sauve. Pour clore ce journal, on évoquera le parcours d'un des plus grands chanteurs français, Charles Aznavour, à l'occasion de la sortie en salle du film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, ou comment le chétif fils d'immigré arménien est devenu une légende de la musique. L'objectif est clair pour Vladimir Poutine, faire contrepoids au G7. Le président russe réunit une vingtaine de dirigeants étrangers à partir d'aujourd'hui pour le sommet des BRICS à Kazan. C'est sur les rives de la Volga, dans le centre du pays. Les pays émergents ont accueilli au sein des BRICS en début d'année l'Éthiopie, l'Égypte ou encore l'Iran. Le bloc pèse désormais près de 30% de la richesse mondiale. 45% de la population. Si l'idée d'une monnaie unique a été évoquée pour réduire la dépendance des pays membres au dollar, elle paraît encore très prématurée. Nathanaël Vitran.
La création d'une monnaie unique interno-BRICS, inimaginable sans union économique préalable et sans projet politique pour Bruno Cabriac, directeur général de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe aucune alternative.
Ce qui pourrait être fait, c'est éventuellement une monnaie composite qui ne serait pas une vraie monnaie commune, mais qui serait une monnaie de réserve. Et ça, c'est important parce que ça permet d'essayer d'échapper aux sanctions américaines.
L'économiste Alexandre Kateb pense, lui, que les BRICS pourraient s'appuyer sur les crypto-monnaies.
Aujourd'hui, on peut échanger, par exemple, du rouble contre du yuan sans passer par le dollar. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur ces avancées technologiques qui utilisent notamment la blockchain et les monnaies digitales pour construire un système beaucoup plus cohérent avec des institutions, avec un certain nombre de standards techniques, etc., qui pourrait constituer une alternative par le bas au rôle du dollar.
Si la dédollarisation de l'économie mondiale est dans l'air du temps, Vladimir Poutine lui-même a reconnu en amont du sommet de Kazan qu'une monnaie unique n'était pas à l'ordre du jour.
Pendant que Vladimir Poutine reçoit les dirigeants des BRICS, les militants des droits de l'homme attendaient une décision de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a jugé aujourd'hui que la loi russe sur les agents de l'étranger était arbitraire. Elle fait naître, disent les juges, un climat de méfiance. Les explications de Julien Chavanne.
Stigmatisante, trompeuse et trop imprévisible. Le constat de la CEDH est implacable. La loi russe sur les agents de l'étranger ne vise qu'à punir et intimider, écrivent les juges européens qui dénoncent une vraie menace pour la liberté d'expression. La Cour avait été saisie par une centaine d'ONG, de médias et de membres de la société civile russe, tous obligés depuis 2012 de s'inscrire comme des agents étrangers, une étiquette synonyme d'inspection, d'amende et de restriction de leurs activités. Et c'est pire pour ceux qui ne se déclarent pas. Le chercheur français Laurent Vinatier a été condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Il y a 2 ans, la justice européenne avait déjà reconnu que cette loi violait la Convention européenne des droits de l'homme sans effet. De toute façon, la Russie a été exclue de la CEDH après l'invasion de l'Ukraine. Moscou avait alors décidé de ne plus appliquer les décisions de cette cour.
Hasard du calendrier, l'autobiographie d'Alexei Navalny sort en librairie aujourd'hui, un peu partout dans le monde. C'était le plus grand opposant de Vladimir Poutine. Il est mort en février dans une colonie pénitentiaire russe. Ses mémoires posthumes s'intitulent « Patriote ». Sa femme, Yulia, a relu et fini son récit après sa mort. Alexei Navalny s'y disait persuadé que sa détention se finirait soit par la chute de Vladimir Poutine, soit par son décès. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a appelé une nouvelle fois les habitants de la banlieue sud de Beyrouth à évacuer leur domicile cet après-midi. De nouveaux bombardements ont été menés contre des installations du Hezbollah. L'hôpital Hariri, le plus grand établissement public du pays, a été touché par une frappe. plus tôt dans la journée, faisant au moins 13 morts et près de 60 blessés. Au total, ce sont au moins 1500 Libanais qui ont été tués dans les bombardements israéliens en près d'un mois. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine a rencontré les officiels israéliens aujourd'hui. Première étape de sa tournée au Proche-Orient, la dernière avant la présidentielle américaine. Après la mort du chef du Hamas, Anthony Blinken espère arracher un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens. Direction l'Afrique, au Mozambique, au lendemain de la répression d'une manifestation destinée à dénoncer les fraudes électorales, la mission d'observation de l'Union européenne a évoqué aujourd'hui des irrégularités lors du double scrutin présidentiel et législatif. Une déclaration qui intervient alors que les résultats officiels sont toujours attendus. Les explications de notre correspondante régionale, Gaëlle Alex.
La mission d'observation européenne a constaté des irrégularités lors du dépouillement et des modifications injustifiées des résultats au niveau des bureaux de vote, écrit le communiqué. Près de 180 observateurs européens ont été déployés dans tout le Mozambique le jour des élections générales. Mais lors des opérations de dépouillement, certains ont été refoulés des bureaux, y compris au niveau national. Ces déclarations donnent du grain à moudre au candidat Venancio Mondlane. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce matin, il appelle à deux nouvelles journées de mobilisation les 24 et 25 octobre pour paralyser le pays. La manifestation d'hier a tourné court. Les forces de l'ordre ont très vite dispersé les rassemblements avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Venancio Mondlane lui-même en a fait les frais devant son siège de campagne. Hier, dans une autre vidéo, il a accusé les forces spéciales mozambicaines d'avoir tué son avocat, assassiné vendredi avec un autre proche du candidat. Dans la soirée, les États-Unis ont condamné ces meurtres. Nous nous joignons aux partis politiques du Mozambique pour demander une enquête, écrit leur communiqué. Gaëlle Alex Nairo, BRFI.
Au Cameroun, Paul Biya a regagné de l'aéroport le palais présidentiel de Yaoundé sous les caméras de la télévision d'État hier. Une émission spéciale a été consacrée à cette apparition. Le président camerounais, âgé de 91 ans, était resté absent de la scène publique pendant plusieurs semaines, laissant les rumeurs sur sa santé enfler. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ces paroles de Charles Aznavour sont éternelles. Son répertoire est passé à la postérité dans le monde entier. Pourtant, il n'avait pas les atouts des chanteurs de charme des années 50, ni le physique, ni la voix. Décédé en 2018, il revit sous les traits de l'acteur Tahar Rahim dans le film Monsieur Aznavour. Il sort demain dans les salles françaises. Sophie Torlotin.
Il vendit plus de 100 millions d'albums, fit des tournées triomphales dans le monde entier, enregistra des duos avec Frank Sinatra et pourtant, Charles Aznavour n'avait pas beaucoup d'atouts dans son jeu. On lui dit qu'il n'a pas le physique pour réussir et même Edith Piaf, qui le prend sous son aile, tente de le dissuader de se lancer dans une carrière de chanteur.
Pour être chanteur, il faut une voix et ta voix, elle est voilée.
Le biopic de Grand Corps Malade et Mehdi Idir insiste sur les premières années difficiles de Charles Aznavour, Grand Corps Malade.
C'était une de ses volontés. Les grosses tournées internationales, le succès, tout ça, ça l'intéressait pas. Il voulait vraiment parler de sa jeunesse, des années galères. Évidemment, donc fils de réfugié arménien, très pauvre, il a rien pour réussir. Et à force de volonté, de travail, mais évidemment quand même d'un talent intrinsèque, il finit par s'imposer.
Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai.
C'est cette histoire d'ascension qui donne tout son sel à ce biopic finalement classique, porté par la composition de Tahar Rahim, qui, comme Aznavour, a travaillé dur sa gestuelle et sa voix pour interpréter les standards de son illustre modèle.
La formule Aznavour.
Et puis on connaît désormais le dernier carré des romans sélectionnés pour le Goncourt. Sandrine Colette, Kamel Daoud, Gaëlle Faye et Hélène Gaudy sont donc les quatre finalistes retenus par le jury. Le plus prestigieux des prix littéraires français sera décerné le 4 novembre. Et puis un mot de foot pour finir et la troisième journée de la Ligue des Champions en Europe ce soir. Au programme notamment la rencontre entre le PSG et le PSV Eindhoven. Pour l'instant avec un succès et une défaite, le bilan n'est pas reluisant pour le club parisien qui entend renouer avec la victoire. Voilà, c'est la fin de ce journal et maintenant vous m'en direz des nouvelles, Marjorie Bertin.
Merci beaucoup Karine Velicha.